おかしいおかしい。
Je vous invite à suivre l'émission de Le Ventre Congolais avec Alain Ronk.
Bonsoir. Élection présidentielle en Afrique, en Guinée, difficile scrutin qui a débouché sur l'élection du premier président élu démocratiquement. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, il y a dédoublement des présidents et des chefs de gouvernement à l'issue du deuxième tour. Quelle analyse faire des élections présidentielles en Afrique et quelles leçons la RDC peut-elle en tirer? Trois invités participent à cette émission. Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIC. Monsieur Bonso, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Professeur André Lubanza, vice-doyen chargé de la recherche à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Lubanza, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Paul Gaspard Ngondanko, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa, lui intervient, il est en ligne. Professeur Ngondanko, bonsoir.
Bonsoir.
Comme vous le savez, vos réactions, chers auditeurs et internautes, nous les avons déjà. Wilman de Kalimio Katanga, il est clair aux yeux de tout le monde que les Africains ne sont pas faits pour la démocratie, que les chercheurs créent un autre système de gouvernement adapté uniquement aux Africains. Georges de Kinshasa, la communauté internationale a récolté ce qu'elle a semé, à voir comment elle a géré les élections dans plusieurs pays africains pour la RDC. Les leçons à tirer sont les suivantes, la formation d'une armée républicaine et que les députés désignent des personnes indépendantes devant faire partie de la future CENI. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
En Côte d'Ivoire, la crise post-électorale ne fait que s'aggraver malgré la médiation de l'Union africaine. Signe visible de cette crise, l'existence de deux chefs d'État et de deux chefs de gouvernement. Alassane Ouattara, proclamé vainqueur de la présidentielle par la Commission électorale indépendante, a reconduit le Premier ministre Soro dans ses fonctions. Dimanche, c'est Laurent Gbagbo qui a chargé le professeur Gilbert Maringo de former un gouvernement. L'ex-président sud-africain Thabo Mbeki, médiateur désigné par l'Union africaine, a entrepris des rencontres avec les protagonistes de la crise, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, mais aussi avec le représentant spécial de l'ONU dans le pays. Objectif, obtenir une résolution pacifique à la crise politique en Côte d'Ivoire. Entre-temps, en Guinée, Alpha Condé est devenu le premier président élu démocratiquement, au terme d'un scrutin plutôt difficile. Gilles Yabi, vous êtes analyste politique, indépendant pour le compte de l'ONG International Crisis Group. Actuellement, vous vous occupez de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire en ce moment?
La situation est très compliquée, parce qu'effectivement, on a deux présidents. Président Laurent Gbagbo, qui a prêté serment samedi dernier devant le Conseil constitutionnel, mais qui manifestement n'a pas gagné l'élection présidentielle sur la base des chiffres de la commission électorale. Et on a un deuxième président, Alassane Ouattara, qui a gagné cette élection avec un score de 54% selon toutes les sources et selon la mission de l'ONU sur place qui a certifié l'élection. Et donc aujourd'hui, on ne voit pas très bien la solution politique à court terme.
Il y a un président africain, vous le savez, qui a déclaré qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Sommes-nous vraiment très loin du cas Barack Obama aux États-Unis et pour l'Afrique?
Manifestement, évidemment, de telles déclarations, ce sont des déclarations qui ancrent dans les esprits totalement la notion qu'il y a une sorte de fatalité africaine, non démocratique, et qui aurait une impossibilité, au fond, de changer le futur politique en Afrique. Je crois clairement que l'enjeu, c'est l'avenir des différents pays, c'est l'avenir du continent. Ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire. La situation qu'on observe aujourd'hui est une situation proprement dramatique parce qu'elle reporte prédire la sortie du président en Côte d'Ivoire, un report tunisien, le décollage de ce pays qui est important pour toute l'Afrique du monde, et évidemment, elle remet en cause l'avenir même de futures générations. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, et on ne peut pas simplement permettre à une minorité d'acteurs pour le pouvoir et pour les ressources matérielles qui sont associées à la conservation du pouvoir, on ne peut pas permettre à une minorité de personnes de confisquer ainsi l'avenir de tout un pays et de régions entières du continent.
Professeur André Lubanza, les élections en Afrique, quelle analyse vous faites ces élections?
Bon, je pense d'abord qu'il est quelque peu erroné de croire que les élections en Afrique se déroulent de la même manière dans tous les pays d'Afrique. Enfin, il faut plutôt parler des Afriques parce que les expériences que nous observons en Afrique ne sont toujours pas les mêmes. Vous allez voir, en Afrique du Sud, ils ont réussi les élections, ou bien ils ont réussi les élections. Bon, la RDC a eu sa façon de faire ses élections, le Rwanda. Donc, je crois qu'il ne faut pas vite généraliser le déroulement des élections en Afrique. Et il faut prendre cas par cas et analyser les causes historiques, socio-structurelles, qui peuvent déterminer tel ou tel choix ou tel événement dans le déroulement des élections.
Alors, dans les deux cas que nous avons précisément, le cas de la Guinée et de la Côte d'Ivoire.
Justement, vous voyez qu'en Guinée, il y a le calme parce que le perdant a accepté les résultats des élections,
après beaucoup de tractations.
Tout à fait, mais vous savez que la situation en Guinée, c'est que l'organisateur des élections, celui qui détenait le pouvoir suprême, n'était pas impliqué dans la compétition électorale. Et lui, qui vient d'un corps plus ou moins neutre qui est l'armée, a l'expérience de son prédécesseur qui a failli mourir parce qu'il a voulu bloquer le processus. Donc, il était déjà prévenu qu'il ne fallait pas qu'il bloque le processus. Et donc, il devait laisser les élections se dérouler normalement. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un président candidat. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de propos d'un ancien président qui disait que un organisme des élections en Afrique ne les perd pas.
On n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre.
Tout à fait. Donc on comprend qu'en Côte d'Ivoire, avec cet électorat segmenté que nous avons dans la plupart des États africains, des électeurs qui sont enfermés dans les cadres ethniques, il est difficile que l'on puisse arriver à des bonnes élections.
Professeur, sur le plan sociologique, l'Afrique anglophone organise-t-elle mieux les élections par rapport à l'Afrique francophone?
Bon, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de conflits en Afrique anglophone sur dans le déroulement des élections. Par contre, en Afrique francophone, il y a plus de violence post-électorale.
Cela serait-il lié à une culture coloniale?
Il faut chercher les raisons aussi bien dans l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans la sociologie des différentes sociétés. Donc, pour chaque cas, il faut étudier quelles sont les causes historiques et immédiates qui sont à l'origine de toute cette controverse qu'on observe dans les élections.
Alors, professeur, nous prenons cette question qui nous vient de Bandundouville pour vous.
Malonda Koubali de Bandundouville. La démocratie en Afrique est un simple concept derrière lequel tous les politiciens africains se cachent pour masquer leur nature dictateur. Je souhaite les Congolais qui sont appelés prochainement aux urnes fassent la différence en se montrant à la hauteur des pays africains qui maîtrisent le jeu démocratique.
Que réaction pour ça?
Bon, je crois qu'il retombe dans les erreurs de la généralisation. Quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez de quelle Afrique? Vous parlez de quelle Afrique? Parce que l'Afrique est différenciée. Chaque pays, chaque société a son expérience des élections. On voit même dans le déroulement du processus démocratique, il y a des pays qui ont suivi la voie d'une transition, d'une longue transition, d'autres sont allés directement aux élections. Chaque pays, selon les contingences locales, a sa voie à suivre. C'est question de savoir quelle est la meilleure voie à suivre pour chaque société. Il ne faut pas généraliser, parce que vous voyez en Afrique du Nord, le problème qui se pose en Égypte ne se pose pas au Maroc, même à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas généraliser. Il faut analyser chaque cas tel qu'il
est. Tout à fait. Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, vous venez de suivre le professeur André Lubanza. Pour lui, il faut y aller au cas par cas, il ne faut pas généraliser. Mais la démocratie est-elle une recette africaine?
Oui, la démocratie, c'est comme un concept universel. L'Africain partant même de nos anciennes habitudes, nos coutumes, nos ancêtres, et l'Africain, la démocratie. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne le débat de ce jour, quand nous parlons des élections, pourquoi les dirigeants africains se tamponnent au pouvoir, nous devons circonscrire le cadre. Alors, nous partons de l'ère nouvelle qui a sonné en 1990. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, qui a été caractérisé par le fondement de l'URSS et le courant du mur de Berlin, il y a eu deux mouvements. Sur le plan général mondial, il y a eu des contestations. Et ce qui a été ramené en Afrique, le régime militaire, dictatoriaux, ont été secoués. Et il y a eu un mouvement de conférences nationales qui sont tenues partout. Et de là, l'Afrique s'est trouvée devant deux réactions. Il y a l'Afrique francophone, comme vous l'avez dit, et ses alliés qui sont lusophones et hispanophones, et l'Afrique anglophone. Et maintenant, quelle a été l'attitude du peuple africain du monde francophone? Et ce peuple a voulu à ce qu'on puisse arriver à l'organisation, au changement de régime dictatorial et pour que ce peuple africain puisse recouvrer sa liberté, son droit d'opinion. Et vous vous souviendrez, alors, à son temps, j'ai été invité par l'Université d'Anvers en mars 1996 et l'Université catholique de Washington en septembre, le 18 septembre de la même année, pour parler sur, tenir une conférence sur un thème bien précis. Vote électoraux en Afrique subsaharienne, signification et organisation. Et quand nous nous posons la question de la signification des élections dans un pays africain, dans un pays où il y a eu des conflits. Et quelle est l'organisation qui se fait pour arriver à l'organisation des élections? Voilà des questions qu'on se pose. Quand on parle de signification, il y a une Afrique qui, avec son peuple, qui dit les élections, c'est une façon acte de libération. On se libère d'un régime dictatorial, d'un régime militaire. Nous voulons avoir la liberté, reconquérir notre pouvoir. Parce qu'il y a une des normes en matière des élections démocratiques qui dit ceci, la volonté du peuple est la base de l'autorité du gouvernement. Et aussi, partant de cela, nous avons maintenant une autre conception de la situation des élections. Dans le pays de démocratie, où les institutions sont stables, les élections signifient l'alternance au pouvoir, le changement des dirigeants et des contrats sociaux. Or, en ce qui concerne l'Afrique, il faut bouleverser, il faut changer. Pourquoi changer? Parce que le peuple veut prendre, récupérer son pouvoir détenu par les autres. Mais grâce à l'organisation des élections démocratiques en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faut revenir maintenant au pouvoir organisateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée et en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'on n'a pas mis du sérieux en ce qui concerne la mise sur pied d'un pouvoir organisateur impartial. C'est neutre. Indépendant, afin de rassurer, de donner à chaque acteur politique et à chaque peuple africain la confiance.
Gilles a dit que nous venons de suivre ensemble tout à l'heure de Crisis Group parle de l'absence ou d'une faible culture politique.
Non, c'est pas l'absence de la culture politique. Quand bien même l'Afrique est en train d'expérimenter sa démocratie, c'est au niveau des acteurs, des dirigeants. Tandis que la population, le peuple africain, dans son ensemble, qu'il soit anglophone, francophone, ou lusophone, ou hispanophone, et aspire à la démocratie. Mais ce qui cloche là-bas, c'est quoi? Est-ce que quand on organise les élections, on tient compte d'un principe, d'une valeur cardinale des élections? C'est quoi? C'est l'organisation des élections dans une atmosphère d'indépendance, de neutralité, d'impartialité, pour arriver à des scrutins libres, démocratiques et transparents. Quand on ne respecte pas ce principe cardinal des élections dans un pays, ça débouche. À ce moment-là, on jette la responsabilité sur tout un peuple. Dire qu'un peuple africain n'a pas une culture, c'est une injure. C'est un peuple qui s'adapte au contexte. Parce que le monde est devenu un glace planétaire. Le peuple africain, lui, c'est que passe ailleurs. C'est pourquoi il a tout intérêt à exprimer sa volonté, à récupérer son pouvoir et donner à la personne dont il a besoin.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, vous êtes un professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Quelle analyse vous faites des élections présidentielles en Afrique? Vous avez également suivi le de précédents interlocuteurs.
Oui, je vous remercie, cher ami. Mais je crois que nous, les Africains, nous commettons souvent une erreur. On se contente de voir la roche, tout en refusant de regarder ce qu'il y a en dessous de la roche. La démocratie en Afrique, c'est un idéal que nous poursuivons tous depuis 1990, je crois. Mais la démocratie telle qu'elle se joue en Afrique, c'est comme une pièce de théâtre qui est préparée ailleurs. Alors, vous savez que cette démocratie nous a été presque imposée par l'Occident. L'Occident qui, à la recherche de nouveaux collaborateurs, de nouveaux amis en Afrique, nous ont proposé ce modèle de gouvernement. Je ne dis pas qu'en Afrique, nous, on n'a jamais connu ce modèle de gouvernement, mais la démocratie, sous-entendue comme un mode de gestion du pouvoir, avec à la base un système partisan qui repose sur la compétition entre plusieurs forces politiques, c'est principalement un modèle occidental qui nous est imposé. Et donc, nous nous trouvons en 1990 où l'Occident, à la recherche de nouveaux équilibres, essaye maintenant d'imposer aux États africains un modèle de démocratie qui repose sur les élections pluralistes, etc. Et sachez que ce modèle-là est déjà conçu quelque part avec des acteurs que eux-mêmes désignent. Je crois que la situation de la Côte d'Ivoire et de la Guinée ne sont pas loin de ce schéma-là. Nous ne sommes pas dupes. Quand on organise un processus politique en Guinée ou en Côte d'Ivoire, il y a des officines à Paris, il y a des officines à Washington, etc., qui échafaudent des scénarios et qui pointent des acteurs, etc., selon que leurs intérêts les guident ou pas. Et je crois que le véritable problème, c'est celui-là. Si vous regardez aujourd'hui l'intervention de l'ONU en Côte d'Ivoire, on dit qu'elle avait le pouvoir de certification, etc. Ou les déclarations tonitruantes d'un certain Nicolas Sarkozy. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a anguille sur roche. Parce que comment peut-on expliquer aujourd'hui cet engagement, cet acharnement à défendre une cause? Et d'ailleurs, dans le cas de l'ONU, l'ONU a même jusqu'à désigner un président de la République. Je n'ai jamais vu dans l'histoire récente d'une nation qu'une organisation internationale prenne officiellement position. Je crois que chez nous, la MONUC l'a fait en ce qui concerne, par exemple, le vote de la Constitution, ce qui était reproché. Mais de plus en plus, on voit cette sorte d'ingérence inacceptable de ce qu'on appelle la communauté internationale sur le processus électoral, ce qui complique énormément les débats. Et c'est, je crois que c'est le véritable problème en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a un véritable problème de crise identitaire. Bon, on a commencé un processus politique, on a voulu que l'ONU joue un rôle d'observateur. Mais aujourd'hui, l'ONU s'est jetée clairement dans l'eau, et nous voyons toutes les déclarations. Parce que comment expliquer qu'un processus électoral qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la juridiction constitutionnelle qui a le pouvoir du dernier mot, qu'aujourd'hui on s'arrête en cours de chemin, on ne considère que les résultats publiés par la CEU, alors que ce sont des résultats qui, par hypothèse, sont provisoires.
Professeur.
Oui.
Donc, à ce niveau, professeur, vous voulez dire, si je vous comprends, que la démocratie est un processus que l'Africain n'est pas encore arrivé à s'approprier.
Je crois. Je ne dis pas que l'Africain n'est pas compétent, mais je dis que pour l'instant, ce n'est pas encore son affaire. C'est quelque chose qui est pensé quelque part en fonction des rapports de force. Vous savez que la plupart de nos pouvoirs en Afrique sont sous la coupe de pouvoirs occidentaux, soit sous le registre de la défense, de la sécurité, soit sous le registre des aides économiques, etc. Et ils jouent sur ça pour pouvoir imposer à l'Afrique non seulement un modèle de démocratie, mais également des acteurs. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est effectivement l'illustration de ce rapport de force où vous avez une communauté qui s'est dit internationale et qui se prononce ouvertement pour un candidat, alors même que le processus électoral n'est pas arrivé au bout. Je disais tout à l'heure que les résultats publiés par n'importe quelle commission électorale sont des résultats provisoires, sous réserve de confirmation par la juridiction constitutionnelle qui a le pouvoir d'examiner s'il y avait irrégularité ou non, y compris même le pouvoir d'annuler les votes.
Bon,
je ne dis pas que le recours au Conseil constitutionnel par le président Gbagbo est dénué de tout calcul politique, je ne dis pas ça, mais je cherche à trouver en vain le fondement juridique incontestable des interventions de l'ONU-C, de Nicolas Sarkozy, etc., pour désigner un président. Bon, ça,
en droit moderne, je ne trouve pas encore de fondement.
Merci, professeur André Loubanza. Je retiens cette phrase du professeur Ngondankoy que nous venons de suivre. La démocratie est un idéal en Afrique, une pièce de théâtre qui se joue ailleurs. Il y a cet auditeur Kikuni Bungulu, Joseph de Goma en Nord-Kivu, qui dit « Les élections en Afrique créent plus de problèmes qu'elles en résolvent. Et si nous analysons minutieusement la question, nous trouvons noir sur blanc que ce sont les mêmes réputés entre guillemets grandes puissances qui s'érigent en tireur des ficelles. Le pire, c'est que nombre de nos dirigeants ne font que changer de stratégie. Avant-hier, c'était les coups d'État, hier, c'était les régimes dictatoriaux, et aujourd'hui, c'est la confiscation du pouvoir, professeur.
Je pense qu'on ne peut pas nier l'influence de la communauté internationale dans tout ce qui se passe en Afrique actuellement. Étant donné que nous sommes des États qui sont à la périphérie du capitalisme mondial, étant donné que nous sommes dépendants économiquement, ce qui nous donne les moyens pour survivre, il nous impose une façon déterminée de gouverner nos États. Donc la communauté internationale intervient parfois de manière intempestive dans la gestion de nos États africains, dans l'organisation des élections. Mais il ne faut pas croire que les Africains sont des simples guignols qu'on manipule de l'extérieur. Ils ont aussi leurs intérêts. Et ceux qui manipulent la politique de l'extérieur, ils le font en fonction des réalités locales. Quand on voit la situation en Côte d'Ivoire, on se rend compte que Gbagbo avait déjà confirmé sa stratégie. Il a laissé à l'opposition la présidence de la commission électorale, mais il a mis ses gens au Conseil constitutionnel. Ouattara, il est vrai que c'est quelqu'un qui a travaillé au FMI, c'est quelqu'un qui est même des Occidentaux. Personne ne peut nier que. Personne ne peut s'étonner même de voir comment il est soutenu de l'extérieur. Donc, en même temps qu'on doit reconnaître l'intervention intempestive de l'Occident dans la gestion de l'État en Afrique, on ne peut pas nier que les Africains eux-mêmes ont aussi leur stratégie, parce que la même politique ne donne pas les mêmes résultats partout. C'est-à-dire qu'il y a un déterminant local qu'il faut prendre en compte.
Il y a un autre auditeur, professeur Bavon Moulini, de Kisangani en province orientale, qui dit « Les présidents africains qui s'accrochent au pouvoir lors des élections doivent éviter de laisser une mauvaise histoire au pays, car les hommes passent, mais le pays reste. Il faut chercher toujours à quitter le pouvoir avec honneur au lieu de s'éterniser au pouvoir au moment où la population conteste votre régime. » Il y a quand même eu, professeur, des exemples en Afrique, le président Diouf, ainsi que d'autres qui sont partis.
Massiré est parti, Botswana. Donc, c'est pour dire que chaque société africaine est un exemple pour lui-même, d'abord. Parce que quand nous généralisons le tombeau dans la postée, il y a des États africains où la culture, je ne dirais pas ce qu'on a dit tout à l'heure, qui n'ont pas de culture politique. Ils ont la culture politique, mais plutôt, c'est la culture démocratique qui manque. Parce que la culture politique, c'est quoi? C'est la connaissance du fonctionnement du régime politique. C'est la capacité d'évaluer un système politique. La culture démocratique, c'est ce qui nous manque. Si je reviens à ce que les prédécesseurs ont dit tout à l'heure, en Afrique, on a connu quand même des pratiques démocratiques dans nos sociétés traditionnelles. Mais la société actuelle, c'est une société moderne où les composantes sociologiques ne sont pas les mêmes. Et donc, cette démocratie qui vient de l'extérieur, parce qu'il faut l'avouer, c'est une institution importée, et elle a du mal à s'appliquer convenablement dans nos sociétés actuellement. Parce que vous devez savoir que, en Occident, les cadres sociaux qui sont mobilisés, ce sont les cadres professionnels, ce sont les classes sociales. Mais si nous, on mobilise les ethnies, la différence entre les deux, c'est quoi? Dans le cadre ethnique, ce sont des groupes qui sont fermés. Il n'y a pas possibilité de mobilité. Alors que dans les classes sociales, dans les catégories professionnelles, la mobilité sociale est possible. Et donc, nous nous retrouvons avec un électorat qui est segmenté. Les gens qui adhèrent à un parti politique s'identifient à une province, à une ethnie, et la démocratie dans certains pays devient même quelque chose d'impossible. Si on prend le cas du Rwanda, vous vous rendez compte, si on allait vers une démocratie, une personne, une voix, mais il y a exclusion d'un groupe communautaire et ça posera problème. Le cas de l'Afrique du Sud, les Noirs qui sont majoritaires à l'ANC, depuis qu'on a démocratisé le pays, l'ANC a le monopole du pouvoir.
Jérôme Bonceau, avant de vous donner la parole, prenons cette question d'auditeur qui nous vient de la province orientale pour vous.
Honorable Odiane Polé à Kisangani, les élections en Afrique sont gênantes pour nos dirigeants qui considèrent le pouvoir comme étant un héritage divin. La spécificité des élections en Côte d'Ivoire est que c'est le président en exercice qui conteste les résultats, et c'est une histoire très honteuse pour notre continent. Pour rassurer tout le monde en RDC, nous voulons une CENI et une cour constitutionnelle composée des hommes intègres et crédibles afin de donner l'espoir au peuple congolais.
Les leçons par rapport à la RDC, nous les abordons tout à l'heure, mais prenez le premier volet de la question, Jérôme Bonceau.
Oui, je suis d'accord avec Honorable Diane quand il parle de la conception du pouvoir. La plupart, ce ne sont pas tous les dirigeants africains qui ont une conception erronée du pouvoir. Le pouvoir, c'est être au service d'un peuple, être au service de la nation. Tandis qu'il y a certains dirigeants africains qui ont une conception erronée du pouvoir comme une chasse gardée pour eux, comme s'ils étaient nés au pouvoir et ils ont mouru au pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Que faire maintenant? C'est là l'intervention du peuple. Parce que le pouvoir n'appartient pas aux dirigeants. Le pouvoir appartient au peuple qui est détenté, qui est souvent primaire. Et par conséquent, c'est à ce peuple qu'on doit faire confiance pour qu'il puisse participer à la redistribution des cartes. Ainsi que le professeur avait parlé, même les deux prédécesseurs ont parlé des élections qui sont tenues en Côte d'Ivoire et en Guinée. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir quel type d'élections ont été organisées dans ces deux pays précités. Ce ne sont pas les élections classiques. Ce sont les élections non classiques qui issues des accords politiques. C'est qu'il y a eu un dysfonctionnement en Côte d'Ivoire, tout comme en Guinée, un dysfonctionnement des institutions. Il y a eu la remise en question d'un système politique. Et par conséquent, ce pouvoir, pour canaliser les aspirations du souverain primaire, il fallait recourir à un pouvoir organisateur des élections impartial. Il rassure, il crée confiance. Pourquoi il y a eu des déchirements politiques en Guinée et en Côte d'Ivoire? C'est parce que le consensus politique, national électoral, n'était pas bâti sur une force solide. Il y avait crise de confiance entre les acteurs politiques. Pendant nous avons suivi le débat avec plaisir, avec enthousiasme, avec joie, nous, peuple africain, ce qui s'est passé entre le président Laurent Gbagbo et son adversaire Ouattara. Nous avons dit, voilà, c'est monsieur, c'est pourquoi ils ont rassuré le monde, ils ont rassuré le peuple ivoirien. Or, c'était une démagogie, parce qu'ils n'étaient pas sincères. Il n'y avait pas confiance mutuelle. Et c'est pourquoi on a débouché, là on est débouché. Mais c'est pourquoi nous disons, en Afrique, il faut faire attention. Quand les élections sont organisées dans un pays, si c'est normal, comme les élections de rouler au Ghana, comme les élections qui se sont déroulées en Afrique du Sud, moi j'ai suivi le politique africain où j'étais là depuis le premier élection ministère jusqu'à présent. C'est la dynamique qui avait ramené l'expérience de l'État sud-africain en ce qui concerne la municipalité d'un pouvoir organisateur des élections de l'État. C'est pourquoi nous disons, comme le professeur dit que les élections, c'est une pièce théâtrale organisée déjà par la communauté internationale, nous disons non, parce que les élections, on donne la parole au peuple africain. C'est le peuple africain qui décide. Si le peuple africain existerait, le plus malin peut être son visage, ce n'est pas l'Occident, parce qu'il y a un aspect qui permet à ce que la communauté internationale intervienne. Une des résolutions du Conseil de sécurité parle sur la résolution. Les élections constituent une voie par laquelle on procède par la résolution possible de conflit. Et par conséquent, la communauté internationale a tout été à un œil, regardant dans tout ce qui se passe à travers le monde quand il y a des élections en vue de résoudre facilement les conflits.
Professeur Paul Gaspard Ngonda, encore, vous êtes constitutionnaliste et dans beaucoup de pays africains, la constitution souffre, hein, elle est souvent violée. Quand il y a élection, souvent personne n'en tient plus compte.
Ah ben oui, c'est ça le drame du constitutionnalisme africain. Vous vous rappelez que dans les cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu même une résolution des Nations Unies qui voulait remplacer la constitution ivoirienne. Hein, ce qui a fait jaser beaucoup de constitutionnalistes à travers le monde, y compris même en Occident. Donc, c'est un truisme, c'est connu. La constitution en Afrique, on lui fait jouer le rôle qu'elle a. Mais je crois que revenons plutôt sur le débat sur les élections en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Je comprends bien mon ami Jérôme Bosso, c'est un acteur de la société civile, il se bat depuis très longtemps pour que le peuple récupère son pouvoir, pour que le peuple ait un mot à dire dans la marche vers la démocratie. Mais entre un idéal et ce qui se passe en réalité, il y a souvent un fossé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le processus politique en Afrique, le processus de démocratisation en Afrique est piloté par l'Occident. La réalité aujourd'hui, c'est que selon que en Guinée ou en Côte d'Ivoire, les acteurs politiques sont de l'obédience de la France ou pas, ben, vous aurez tel ou tel camp qui accède au pouvoir. En Guinée, le problème qui s'est passé, c'est lequel, que ce soit Condé ou Diallo, tous sont de l'école française. Hein? Et il n'y a pas longtemps, Kouchner est venu même à Conakry, saluer ses deux amis, ce sont ses anciens collègues de classe. Donc, puisqu'il n'y a pas un adversaire qui menace considérablement les intérêts de la France, ben, l'un ou l'autre, c'est comme bonnet blanc bonnet. Et c'est comme ça qu'on a toléré cette situation. Mais en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un acteur qui ne semble pas marcher sous les pieds, les ordres de la France, etc., en l'occurrence Laurent Gbagbo, ben, on lui cherche toutes sortes de problèmes. Ben, encore une fois, je ne dis pas ici que ce que fait le président Laurent Gbagbo est à applaudir sur le plan de la démocratie comme idéal. Je ne dis pas cela. Mais ici, je crois que l'intervention de la fameuse communauté internationale, son implication dans le processus, à mon avis, dépasse toute la limite, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas de fondement juridique à cette intervention. Au niveau du droit international, quelle est cette charte de l'ONU qui donne pouvoir à l'ONU-ci de se prononcer pour ou tel candidat, pour ou contre tel candidat dans un pays? Je ne vois pas. On vous donne le pouvoir de certifier, vous certifiez jusqu'à un certain niveau, mais il y a un organe qui a le pouvoir du dernier mot, c'est le juge constitutionnel.
Merci.
Quand le juge constitutionnel a parlé, plus personne n'a un mot à dire. Bon, aujourd'hui, ce que moi j'ai tendance à dire, c'est que quel que soit ce qu'on peut reprocher au président Gbagbo, il a la légalité avec lui. Les autres ont la politique, ont les autres intérêts, ça je comprends, mais il a la légalité avec lui.
Merci, professeur.
Voyons ce qui va se passer.
Quelle leçon la RDC peut-elle tirer de ces élections présidentielles en Afrique? Nous avons posé la question à Gilles Yabi, spécialiste de la Côte d'Ivoire et de la Guinée à l'ONG International Crisis Group. On l'écoute.
Je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de leçons qui soient en tout cas applicables dans l'immédiat. Le problème, ce n'est pas l'organisation technique des élections. Il y a un certain nombre de problèmes techniques encore sur l'ordre des élections, mais en réalité, même ces problèmes techniques, en général, font partie d'une stratégie qui est, elle, totalement politique de conservation du pouvoir par celui qui y est, ou d'accession au pouvoir par des moyens non démocratiques par les opposants. Et donc, c'est un problème fondamental de culture politique. Et ce n'est pas un problème de technique électorale qui peut être résolu par des experts qui auraient commis à cette tâche. Et je crois aussi qu'au-delà des problèmes qu'on peut observer au moment des élections présidentielles, il faut une réflexion de fond et ensuite des actions sur la question même de la conception du pouvoir dans les pays africains.
Professeur André Loubanza, je rappelle que vous êtes vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, quelle leçon la RDC peut-elle tirer de toutes ces élections?
Bon, toute proportion gardée, je crois que, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le Congo, mais je crois que la grande leçon à tirer, c'est au niveau de l'organe qui organise les élections. Vous voyez, la CI en Côte d'Ivoire est au centre de la controverse. D'abord, nous avons vu le porte-parole chercher à proclamer les résultats, on lui a arraché les documents devant les caméras de télévision. Ensuite, c'est le président de la même commission qui va proclamer les résultats ailleurs sans les membres de la commission. Alors, quand je vois maintenant ce qui se passe dans notre pays, la difficulté que les acteurs politiques ont à désigner les membres de la CENI, je me dis que nous devons tirer attention. Nous devons chercher à désigner des personnes neutres. Or, les personnes neutres sont difficiles à trouver. Alors, il faut chercher des mécanismes juridiques pour essayer de rendre fiable d'abord l'organe qui organise les élections avant d'aller vers les résultats électoraux eux-mêmes. Parce que la CI, vous voyez, même si on a plus donné avantage à Ouattara, qu'est-ce qui nous prouve que la CI en Côte d'Ivoire n'a pas manipulé les résultats? Parce que moi, j'ai suivi les analyses de certains sociologues ivoiriens qui trouvent, par exemple, que quand le président a annoncé les résultats, le président de la CI a annoncé les résultats, le taux de participation qu'il a donné est largement supérieur à celui qui était donné avant.
Alors, professeur, pour revenir à la RDC, vous parlez de l'organe qui organise les élections. Nous avons maintenant la CENI dans les pays. Les prestations sont en cours, hein, mais il y a la société civile, notamment Jérôme Bonson nous en dira plus, qui a décrié la politisation déjà de la CENI qui pourrait conduire à de telles situations.
Vous savez, dans notre pays, on ne sait pas finalement si ce n'est pas politisé. La société civile elle-même a été plusieurs fois accusée d'être politisée. Mes anciens présidents de la société civile sont actuellement des présidents des partis politiques. Vous voyez où je regarde. Alors, vous allez comprendre.
Même si je ne le vois pas.
Vous voyez que la mentalité même de la société civile pose problème.
Jérôme Bonso, vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT. Avant de vous donner la parole, prenons cette question qui nous vient de Liège, en Belgique, pour vous.
Augustin Mouvessi, Liège, Belgique, cultif politique démocratique déficitaire, institution judiciaire électorale partisane et commission électorale divisée, violation de la Constitution. Quelles sont les leçons que la RDC peut tirer de ses expériences électorales et envisager les précautions qui s'imposent à 2011, les élections de 2006 ayant été un miracle congolais. Comment expliquer que jusqu'aujourd'hui, les querelles de la composition de la CENI continuent à quelques mois d'élections?
Réaction de Jérôme Bonso.
Monsieur Augustin, merci pour votre intervention. Mais en matière des élections démocratiques, il est dit ceci. Le plus important n'est pas d'organiser les élections bonnes ou mauvaises de 2006, comme vous le dites, mais de savoir comment organiser les prochaines élections.
De 2011.
De 2011, c'est déjà pour notre préoccupation, pour voir dans quelle mesure nous pouvons les organiser et afin de porter d'introduire des facteurs correctifs sur certaines failles qu'on a constatées par ce panel. À ce moment-là, nous allons continuer de législature à législature et ça va faire acquérir la culture électorale, l'éthique électorale et la déontologie électorale à la population congolaise et aux acteurs politiques.
Alors pour vous, Jérôme Bonso, quelles leçons la RDC peut-elle tirer? Le prof André Lubanza a parlé de l'organe qui organise les élections, la CENI.
Vous savez que la RDC, nous avons quand même fait une avancée significative en matière des élections. Nous avons organisé les élections, tout d'abord les premières élections issues des accords politiques. Et nous voulons organiser les prochaines élections issues de la loi fondamentale qui est la Constitution. Et à l'heure qu'il est, nous nous trouvons devant un instrument, déjà de valeur, c'est la loi numéro 10, /013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, promulguée par le chef de l'État. Quand la loi est déjà promulguée, il n'y a pas une question à nous d'interpréter cette loi, mais plutôt de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter un secours qu'on puisse arriver au résultat final. Le résultat final, c'est de doter le pays des institutions issues des urnes et les alimenter à la légitimité issue des urnes. C'est pourquoi nous disons, quand vous posez la question, il y a de la circonstance, il y a ceci, que faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Non, il faut positiver les choses.
Comment?
Il faut le faire en créant un climat de confiance dans le cadre de la population congolaise et des acteurs politiques. Rebâtir un consensus politique électoral solide. Parce que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire connaît du problème, la Guinée en avait connu parce que leur consensus politique nationale n'était pas solide. Partant de cela, dans l'esprit de ce comment solidifier les consensus électoraux, parce que c'était à la base de la réussite des élections dans un pays post-conflit comme la République démocratique du Congo.
Professeur Paul Gaspard Nantoy, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Par rapport aux leçons que la RDC doit tirer de ses élections présidentielles en Afrique, Jérôme Bonso parle de bâtir un consensus politique solide. Le professeur André Lubanza lui a insisté sur l'organe qui organise les élections, la CENI, sa composition.
Et avant tout cela, je pense d'abord qu'il faut que la population soit elle-même d'abord déjà consciente des enjeux politiques dans son pays. On peut tout faire, mais si vous avez une population ignorante comme la nôtre, une population analphabète à plusieurs pourcents,
Vous avez une population très pauvre. Il est très difficile d'organiser des élections idéales dans un pays comme celui-là. Bon, cela dit, ce n'est pas aujourd'hui qu'on obtiendra demain que la culture politique, la conscience politique soit aiguisée dans les chefs de la population. Alors, pour cela, il faudrait alors, en ce moment-là, trouver des solutions immédiates, comme par exemple les structures organisatrices des élections, la Commission électorale nationale indépendante chez nous, comme aussi la structure qui va contrôler la régularité de ces élections, la Cour constitutionnelle demain. Donc, dans les deux cas, il est souhaitable effectivement qu'on ait des personnes suffisamment neutres et indépendantes, mais cette indépendance ne peut pas être obtenue de façon absolue à travers les mécanismes qu'on a actuellement ou qu'on peut imaginer. Il ne suffit pas, par exemple, de dire que voilà, les membres de la CENI sont issus de la majorité ou de l'opposition pour qu'ils soient du coup indépendants. Il ne suffit pas de dire que la CENI, les membres de la CENI ou les membres de la Cour constitutionnelle ont un mandat de X années non renouvelables pour espérer que demain ils ne puissent pas rendre des décisions pour leur futur, pour leur carrière future. Ce qui est important dans le chef de tous ces membres, c'est leur indépendance personnelle, leur indépendance morale, intellectuelle. J'ai toujours dit que quand on est nommé à la Cour constitutionnelle, ou même à la CENI, on a un devoir d'ingratitude à exercer vis-à-vis de ses amis politiques. Parce que là, on a une responsabilité énorme qui vous donne le pouvoir d'arbitrer entre différents intérêts, entre différents conflits possibles. Et si on ne parvient pas personnellement à se mettre au milieu du village pour dépasser les intérêts partisans, pour dépasser même le menace éventuel, il est alors illusoire d'espérer être à la CENI ou à la Cour constitutionnelle, parce que là, forcément, on va jouer le jeu d'un camp, et en ce moment-là, on va se ridiculiser inutilement. Pour moi, les leçons à tirer principalement, et d'ailleurs, comme pour tous les pays, c'est au niveau des structures organisatrices et de contrôle des élections, avoir des personnes suffisamment indépendantes sur le plan de leur esprit, avant de pouvoir être indépendant matériellement, politiquement ou autre.
Professeur, vous êtes constitutionnaliste. Un mot par rapport au respect de la Constitution.
Ben, chez nous, nous avons une Constitution qui a été adoptée en 2005. Bon, la Constitution actuelle est ce qu'elle est. Elle est appliquée ou pas appliquée. Il y a des lois qui ont été prises pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques, entre autres dans le domaine de l'organisation des élections. Bon, que dit la Constitution concernant la CENI? La Constitution dit simplement qu'une loi organique va être prise, et c'est au législateur de fixer les règles au niveau de l'organisation du fonctionnement de la CENI. Nous avons cette loi qui a été promulguée, et vous le savez, le bureau, les 7 membres du bureau de la CENI vont être issus 4 de la majorité et 3 de l'opposition.
Merci.
On voit la difficulté actuelle au niveau de la composition du bureau, mais bon, on espère que demain, les difficultés vont être surmontées.
Merci, professeur. Professeur André Loubanza, nous attaquons la dernière partie de l'émission. Il va falloir conclure. Vous avez suivi le professeur Ngondanko. La population doit être consciente des enjeux. Il est difficile d'organiser des élections idéales dans un contexte tel que le nôtre. Il faut avoir un devoir d'ingratitude quand on est membre de la CENI ou de la Cour constitutionnelle. Professeur, c'est ça aussi votre conclusion.
Je pense que pour rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, je pense que démocratie, c'est démopédie. C'est-à-dire, la bonne démocratie marche avec l'éducation de la population. Parce que cette élection doit avoir une signification. La personne qui va voter doit savoir pourquoi elle vote. Est-ce qu'on vote le projet, ou on vote l'individu, ou on vote l'ethnie? Je pense que la démocratie a encore une longue marche à parcourir dans notre en Afrique et même dans notre société.
Jérôme Bonso, votre mot de conclusion.
Oui, avant de conclure, je voulais ajouter un petit mot à ce que le professeur m'a parlé, que l'ONU, en Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies qui est là, et qui s'agit de signer des accords. Non, cela est le résultat des accords politiques du Ouagadougou, qui a fait à ce que la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire puisse avoir la mission de certifier les résultats électoraux. En ce qui concerne les constitutions que vous avez parlé, il y a des dispositions au niveau de la région, au niveau de l'Union africaine, qui parle de la Charte africaine de démocratie, des élections et de la gouvernance. Et là où il y a, dans le chapitre qui concerne les sanctions, il est demandé à chaque pays, État parti, qui violerait la Constitution, qui relancerait, qui confisquerait le pouvoir issu des juifs, serait sanctionné. Moi, en fait, je dirais ceci, il y a beaucoup de défis à régulariser pour les prochaines élections dans notre pays. Défis liés à l'éducation civique, et à l'attitude aussi des acteurs politiques.
Merci.
Et à l'état de la confiance dans le processus électoral.
Professeur Ngondo, encore, il y a une question qui vient de tomber, qui s'adresse à vous, c'est Jackson Kiembi de Kinshasa. J'aimerais que le professeur Ngondo encore nous dise, devant la situation de la Côte d'Ivoire, s'il était médiateur, quelle solution il proposerait brièvement, professeur, votre conclusion aussi.
Non seulement à la solution d'un constitutionnel, mais d'un juriste. Moi, j'aurais souhaité que le processus aille jusqu'au bout, jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. Ben, je sais qu'on peut utiliser la Cour constitutionnelle à des fins politiques. Je sais aussi que la Cour constitutionnelle peut ne pas être indépendante.
Merci.
Mais en tant que constitutionnaliste, il faut aller jusque-là.
Merci, professeur. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Réalisation Dimat et Samuel Kachak, coordination technique Bob Landau, mise en monde Willem Lungamba, supervision rédactionnelle Ben Kabamba, présentation Alain Hiroum Mouchi. Vous, vous l'avez suivi. Nous vous disons merci.
Oh, 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 oh